Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Institut des Libertés où aujourd'hui nous allons tenter de répondre aux questions que vous avez posées, que je vous ai posées, qui étaient soit sur YouTube, soit sur notre espace dans Twitter, dans X. Et j'en ai pris un peu au hasard, comme ça, pour les poser au vénérable octogénaire. Et vous avez vu qu'au moment des vacances, on a réussi à lui couper les cheveux, donc maintenant on a une coupe réglementaire presque.
Oui, mais ça n'a pas resté longtemps. Enfin, ça pousse ces trucs, tu sais.
C'est hallucinant. Hein,
c'est hallucinant, c'est comme les ongles, tout ça, ça se somme. Se raser.
Et vous avez la part belle, hein, parce que nous, le nombre de trucs qu'on doit faire pour être à peu près décente.
Je sais ce que je dis, mais
et
je
en plus,
auriez.
Plus tu vieillis, plus tu dois faire des trucs pour que ça soit à peu près.
Je sais bien, mais moi j'ai toujours pensé que si en plus vous avez eu la barbe, vous auriez eu tous les emmerdements. Comme ça aurait été plus simple.
Ouais.
Tu vois, moi j'étais d'accord pour n'avoir aucun emmerdement.
Ouais. Enfin, un jour je te filerai l'épilation maillot et puis on en reparle. Parce que alors, ça.
Non, mais je te la laisse.
Ça, c'est vraiment un truc, on nous a eu sur ce coup-là. Voilà, alors Cédric te demande « Bonjour Monsieur Gave, bonjour Madame Gave, merci pour tout ce que vous faites, c'est infiniment bénéfique. Je me pose la question suivante depuis quelques années. Nous entendons souvent parler d'un immense crash à venir, similaire à la crise de 29, étant donné les performances impressionnantes des marchés depuis 15 ans. On se demande effectivement combien de temps cela peut encore durer et si cela chute, quelle serait l'ampleur de la chute ?» Cependant, je me dis qu'il est peu probable d'avoir un crash aussi important qu'en 29. Par conséquent, si la volatilité ne peut pas être aussi grande, il y aurait une sorte d'inertie du marché due en partie au fait qu'il est compliqué de réallouer une grande partie de ses actifs ou d'autres classes d'actifs telles que l'immobilier, l'or, les obligations ou les crypto-monnaies. Avez-vous un avis à ce sujet ?
C'est une question intéressante parce que c'est une question qui amène à se poser des questions historiques en quelque sorte. Et je vais y répondre de la façon suivante. Bon, le krach de 1929, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, c'est finalement, ce métier, c'est un métier assez facile. Il faut savoir s'il y a plus d'imbéciles que d'argent, plus d'argent que d'imbéciles. Hein, Et ce qui s'est passé en 1929, comme l'a très bien montré Milton Friedman, c'est que la Banque centrale a permis un effondrement de la quantité de monnaie. Il n'y avait pas assez de pognon. Et donc, on est rentré dans ce que j'appelle une déflation des pressions, c'est-à-dire que les prix baissent.
Alors même qu'on avait créé la Banque centrale pour ça.
Pour ça.
Mais donc les gars, ils étaient là pour ça, ils se sont dit non, on va pas faire notre job.
Voilà, on va faire notre job. Et en plus, il y a eu des erreurs monumentales faites par le gouvernement américain. Augmenter les impôts, devenir protectionniste, dévaluer le dollar. Enfin bref, ils ont fait tout pour qu'on ait une dépression. C'est-à-dire que il n'y avait pas assez d'argent dans le système. Bon, la dépression, on en sort par la guerre, à partir de 1940, etc. Et ce qui est resté dans l'inconscient collectif et des banques centrales, c'est qu'il fallait éviter à tout prix qu'on se retrouve une fois encore dans un moment où il n'y a pas assez d'argent. Donc on est une déflation-dépression. Les prix baissent, les quantités baissent. Et donc, depuis à peu près 1945, chaque fois que quelqu'un fait un peu de travers dans l'économie, la Banque centrale remet du fric. C'est ce qu'on appelle une politique keynésienne qu'on enseigne à l'ENA. Et donc, la solution à tous les problèmes, c'est mettre plus d'argent et les dépenses de l'État augmentent. Ça veut dire que si on a une crise très importante, la seule chose qu'il fallait avoir dans les années 30, c'était des obligations d'État. Tu vois, parce que tout le reste, c'est pété la gueule. Les obligations particulières, tout s'est pété la gueule. Donc, fast forward, comme on dit, maintenant tu as un siècle à peu près. Donc, la prochaine crise, ce sera une crise qui sera exactement l'inverse. C'est-à-dire que la seule chose qu'il ne faut pas avoir, c'est des obligations d'État. Parce qu'on va avoir une crise inflationniste de destruction des obligations. Puisqu'on en a émis beaucoup trop pour éviter qu'il y ait le. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est. C'est presque comme un négatif. Mm-hmm. Tu vois, t'as le négatif et puis t'as la photo. Bon, ben là, à mon avis, la crise qu'on va avoir, c'est une crise obligataire et de la dette des États.
Alors, obligataire ben, sur les US et sur l'Europe.
Et sur l'Europe.
Parce qu'une obligation indienne ou chinoise,
ils n'ont pas ce problème voilà. Parce que ils n'ont pas eu les mêmes crises.
Ils sont dans un autre temps monétaire.
Ils sont dans un autre temps. Ils sont en train d'essayer de rentrer dans un monde monétaire à peu près organisé. alors qu'ils n'étaient pas avant, ou qu'ils étaient complètement sujets du dollar. Donc, ce que pour répondre à cette question, oui, il va y avoir une crise, mais ce qui va aller à zéro, c'est les obligations, c'est pas les actions. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, il y a des actions, il y a de l'or.
Et c'est pour ça qu'on vous dit, et Dieu sait qu'on vous le répète, mais je le répète encore une fois, vérifiez ce que vous avez dans vos PEA, PEL et compagnie. Sortez des, ou de vos assurances vie. Sortez de toute position obligataire, vraiment, faites-le pour nous. faites-le pour vous. On vous dit ça en toute bienveillance, vraiment. D'abord.
Elle continue à baisser.
Elle continue à baisser. Donc, en rendement, vous y gagnerez. Achetez, mais à la achetez du liquide, achetez du total. Même si les valorisations ne sont pas incroyables, ça sera toujours mieux. Et en plus, vous passerez à côté de cette crise obligataire.
Donc, voilà, vraiment, c'est la vraie vraiment, crise. Vraiment. Donc, dites-vous bien que. Alors, je reviens un peu en arrière. Il y a un livre tout à fait remarquable en 3 volumes qui a été un petit peu c'est les réflexions de Schumpeter sur les penseurs économiques qui avaient existé dans le temps. Alors vous savez à quel point j'aime Schumpeter, donc ça s'appelle l'histoire des idées économiques. Hein, vous pouvez le trouver, c'est en 3 volumes. Vous pouvez lire des petits passages, mais enfin c'est un peu, mais enfin c'est un livre tout à fait remarquable. Et en le lisant, qui a été écrit jusqu'aux années 40 par Schumpeter. C'était les notes de Schumpeter qui ont été reprises par une série d'économistes, je crois, sous d'ailleurs la direction de Raymond Barre. Et ils ont édité ça pour en faire des bouquins. Mais c'était une espèce de... Schumpeter est un type étonnant. Donc c'était les réflexions de Schumpeter sur tous les gars qui avaient pensé l'économie avant lui.
Ah, c'est formidable. Mais tu sais, le problème avec ce genre d'ouvrage, c'est que la plupart du temps, on galère à les retrouver. Hein.
Non, mais ça, c'est fait, je ne sais plus, je ne sais pas quoi, ça doit se retrouver. Je les ai trouvés, en tout cas, les trois volumes. Et c'est très intéressant parce que quand tu lis ça, tu te rends compte que le problème des banques centrales pendant... Tant qu'il y avait l'état l'or, mettons jusqu'à les années 40 à peu près, c'est à peu près la durée avant, c'est à un moment où Schumpeter l'a créé, c'était d'empêcher les prix de baisser. Parce que le capitalisme est naturellement déflationniste.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'était toutes les astuces qu'avaient trouvées les banques centrales pour essayer d'empêcher les prix de baisser. Et donc, elles ont tellement bien empêché les prix de baisser que maintenant, elles ont collé un siècle d'inflation. Et la sortie, ça va être, elles ont bien réussi leur coup que d'empêcher les prix de baisser, ce qui fait que les gars qui étaient endettés sautaient, c'est que les gars qui auront prêté vont sauter. C'est pas les gars qui auront emprunté. Donc c'est curieux comment on voit, de voir à quel point la pensée dans les banques centrales aujourd'hui, quasiment un siècle après, est encore et toujours d'empêcher les prix de baisser. C'est marrant.
Ben, ils ont peut-être des directives en ce sens, politiques.
Oui, mais en même temps, il y avait une certaine indépendance. Et,
depuis
Bundesbank, on n'en a plus. Mais évidemment, comme le plus gros emprunteur du monde aujourd'hui, c'est les États, c'est eux qui sont les grands gagnants si vous ruinez les épargnants. Quoi, mais...
ben, on est encore et toujours dans cette idée d'euthanasie des rentiers.
Voilà. L'euthanasie des rentiers, c'était la réponse de Keynes au fait qu'il fallait empêcher les gens de se ruiner. Il fallait ruiner ceux qui épargnaient.
Voilà. Et la réponse aujourd'hui, toujours, encore et toujours, de gens comme Sandrine Rousseau, c'est toujours de se dire on va aller chercher l'épargne où qu'elle se trouve.
Oui, et quand il n'y en a plus,
on vend ce qui reste.
Puisqu'ils n'ont pas un rond.
On est d'accord. On est absolument d'accord. Alors, j'ai une question qui est un peu technique, c'est pour ça que je voulais te la poser au début. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient que tu leur rappelles ou que tu leur fasses un petit cours sur ce qu'est véritablement Target 2. Les balances Target.
Les balances Target. Ouh là, ça c'est très... Oh là là, c'est une sorte de corne-cul, je vous dis pas. Alors, dans une économie normale... Mettons la France et l'Allemagne, allez. Si la France avait un déficit de sa balance commerciale avec l'Allemagne, c'est-à-dire si on achetait plus à l'Allemagne qu'on lui vendait...
Ce qui est le cas.
Ce qui n'était pas le cas avant, mais ce qui est le cas aujourd'hui, oui. Bah, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un certain temps, les Allemands nous demandaient soit des dollars, soit de l'or. Ils n'avaient plus confiance, ils ne voulaient pas augmenter leurs réserves de francs français jusqu'à la fin des temps. Donc, soit des dollars, soit de l'or, et comme les réserves de change de la Banque de France baissaient, on avait de moins en moins d'or et de moins en moins de dollars, à un moment, il fallait dévaluer pour rétablir l'équilibre. Ça, c'était dans un système normal. Mais à partir du moment où tu dis,
On a tous la même monnaie.
On a tous la même monnaie. Donc, si ça se passe comme ça, ben, les Français vont donner des euros à l'Allemagne. Et ils vont se retrouver avec de plus en plus d'euros français, en quelque sorte, les Allemands. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, on a décidé qu'on ferait un système de balance.
De jeu d'écriture.
Un jeu d'écriture où, dans le fond, la Banque Centrale Française reconnaît, la Banque Centrale Française reconnaîtrait qu'on doit de l'argent à l'Allemagne.
Voilà, c'est une sorte de traite
un effet à recevoir. Je vous paierai. Et donc, aujourd'hui, un effet à recevoir. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous cumulez les comptes courants de l'Allemagne avec, par exemple, l'Italie et l'Espagne, vous vous rendez compte que l'Allemagne a un crédit sur les banques centrales italiennes et espagnoles de quasiment 1 000 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent des surplus qu'ils ont eus, tu vois ce que je veux dire. Mais en face, je crois que la personne qui est en face, c'est la Banque Centrale Allemande et à qui la Banque Centrale Italienne ou Espagnole doit de l'argent. Donc c'est un effet à recevoir, mais qui ne sera jamais présenté. Donc, si vous avez compris quelque chose à ce que je vous ai dit... C'est que je me suis mal exprimé, parce que moi, j'ai regardé tout ça, je suis tout ça, et après regardé ça pendant 10 ans, j'habite toujours rien.
Que dans le temps, quand même, quand tu avais...
Il y avait un système automatique.
Donc, tes caisses grossissaient.
C'est-à-dire que la masse monétaire montait en Allemagne parce qu'on recevait du pognon de France, et la masse monétaire baissait en France, donc ça a déclenché une récession.
Oui, pour l'instant, là, tout reste dans un cahier, dans un jeu d'écriture, genre, je te dois ci, je te dois ça, mais... En pratique, si demain l'Allemagne dit, écoutez, j'ai une contraction de mes comptes, j'ai besoin que vous me donniez de la masse monétaire, que vous me donniez vos euros.
Mais non, ça la rend. Ils sont déjà dans le système, ces euros.
Mais voilà.
Ils sont déjà dans le système, ils sont quelque part dans le système. Donc
il faudra qu'ils leur donnent quoi? Des avoirs, des autre chose, de l'or, toutes les femmes.
Mais personne ne veut acheter les Allemandes, c'est terrible. Enfin, je rigole, je dis ça.
Non, vous me donnez toutes vos Italiennes et toutes vos Espagnoles.
Oui, il y en a de moins en moins. Ouais. Il n'y a quasiment plus d'enfants, il n'y a plus d'enfants ni en Espagne ni en Italie. Donc voilà, j'ai regardé ça, et c'est un système, encore une fois, qu'ils ont bâti. Vous savez, de l'économie, c'est un machin qui fonctionne s'il y a des rééquilibrages automatiques. Le système que j'ai décrit, quand on n'a plus de réserve de change, on cesse d'acheter à l'étranger. Ce qui déclenche une récession, c'est un système de rééquilibrage automatique. Là, ils ont bâti un système à l'intérieur de l'Europe qui prend en compte des trucs virtuels comme si ça allait mener à un rééquilibrage, mais ça mène à rien du tout, puisque ça n'a pas d'effet ni sur les taux d'intérêt, ni sur les taux de change. Donc, l'Allemagne accumule des excédents et on empêche sa monnaie de monter. Elle va continuer à accumuler les excédents et nous des déficits. Tu vois, il n'y a pas de limitation automatique. Par exemple, ma chère mère, quand elle voyait qu'on avait des balances commerciales déficitaires, elle était femme d'officier, elle ne savait pas trop bien ce que ça veut dire, mais elle savait qu'en général, ça voulait dire qu'une dévaluation n'était pas bien loin. Mais tous les Français, elles savaient ça. Aujourd'hui, on achète joyeusement des voitures allemandes, et de moins en moins d'ailleurs, parce qu'ils ne vont plus pouvoir en faire, les pauvres. Et qui sont. Si tu veux acheter une Mercedes au même prix qu'une Peugeot, tu vas acheter une Mercedes, quoi. C'est
idiot. Il me semble.
Voilà. Et donc, on a bâti des systèmes qui sont sans rééquilibrage automatique. C'est-à-dire que la seule sortie, c'est l'explosion. C'est-à-dire, à la place de faire des tas de petites crises comme on avait sans arrêt, on aura à l'arrivée une crise gigantesque. Tu vois, c'est vraiment. Résonner comme une pendule. Mais encore une fois, je vais dire au lecteur là, s'il a compris comment ça marche, qu'il m'envoie une note, parce que... j'ai essayé de comprendre, c'est d'une complexité, mais c'est inouï, quoi.
Alors, bonjour, je serais très intéressée de connaître l'avis de Charles Gave sur l'évolution de la courbe des taux US à 10 ans, taux US à 3 mois, et son retour en positif depuis peu. Pense-t-il que ce soit un signe annonçateur de récession ?
Ben non, parce qu'en principe, si vous voulez, c'est quand la courbe devient inversée que la récession arrive. Et cette fois-ci, on l'a pas eu, pour des raisons que je pourrais expliquer. Mais là, ça veut dire simplement qu'elle est en train de se passer. Un phénomène, c'est que pendant longtemps, ce que pensaient les gens aux États-Unis, c'est qu'une récession était imminente. Tout le temps, la récession va arriver, elle n'arrivait jamais d'ailleurs. Nous, on ne pensait pas ça, mais enfin, c'est ce que pensaient les gens. Donc, ils achetaient des taux longs en partant du principe que dès que la récession arrivait, ils gagneraient de l'argent. Et puis là, ils voient arriver ce bon Trump avec Musk, et les types, ils vont couper comme des malades dans toutes les dépenses improductives. Donc, il est probable que la rentabilité du capital va augmenter, puisqu'ils vont arrêter des tas de bons. Et donc, si la rentabilité du capital augmente, comme une espèce de relation incestueuse entre la réalité du capital et le coût du capital, ben, si la rentabilité du capital monte, le coût du capital va monter, et donc les taux longs vont monter, puisqu'il n'y aura pas de récession, et tu vas te retrouver avec une courbe des taux normale. Donc la courbe des taux normale, ça veut dire au contraire que probablement les États-Unis sont en train de se préparer à une activité qui accélérerait. Mais si les taux montent beaucoup sur le dollar, et que nous, on n'a pas du tout... on continue à foutre des réglementations en Europe comme des malades et en supprimer aucune. Si vous pouvez avoir du 5 ou du 6 aux États-Unis et du 3 en France...
Du 3 en France, t'es gentil.
3,3, c'est-à-dire que c'est les taux à 10 ans. Je crains que vous n'achetiez les obligations américaines, et à ce moment-là, l'euro va aller faire un tour à 0,80 ou 0,90. Donc, pour moi, le retour à la normale de la courbe des taux aux États-Unis, ça veut probablement dire une pression accrue sur l'euro à la baisse. Donc, c'est pas tellement aux États-Unis que ça aura de l'effet, c'est chez nous. Une autre raison pour ne pas avoir d'obligations européennes, d'ailleurs, c'est que...
Oui, s'il était nécessaire d'en avoir une pénultième, là voilà. Alors, bonjour Charles et Emmanuel. Tout d'abord, merci pour vos vidéos. Vous m'avez ouvert les yeux sur plein d'aspects politiques, économiques. Pour ce qui est de la question, la voici. Pour un jeune d'une trentaine d'années, est-il nécessaire d'acheter sa résidence principale quand on habite en France à l'heure d'aujourd'hui? D'après ce que vous dites sur l'avenir français, il n'est pas radieux. En découlerait-il pour vous une crise immobilière et donc potentiellement une chute du prix au mètre carré généralisé?
Alors la réponse est... c'est une question compliquée.
C'est une question compliquée dans le sens où il y a un aspect Madame Irma.
Il y a un côté, non, mais la réalité, c'est si vous pouvez acheter... Non. Où vit-il? S'il vit à Paris, la réponse, il doit pas acheter, cet idiot. Mais s'il vit à Clermont-Ferrand ou dans un endroit...
Dans un endroit où les prix de l'immobilier n'ont pas été trop manipulés.
Ils ne sont pas trop élevés.
Et que c'est pour acheter une résidence principale dans laquelle vivre.
Et donc, vous vous en foutez après tout qu'elle baisse pour les 40 ans qui viennent. Vous empruntez pas trop cher aujourd'hui. Donc, oui. Et puis, vous empruntez dans une monnaie qui risque de se péter la gueule. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Donc... Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est dans ma vie, quand j'étais jeune, j'ai loué au départ et je m'achetais une assurance d'essai. Oui. C'est-à-dire, j'avais pour préserver ma femme et mes enfants, si je claquais, ce qui peut arriver dans un accident, bon, vous mourrez, et à ce moment-là, qu'ils aient de quoi arriver jusqu'à là. Bon, une assurance d'essai. Et puis ensuite, quand j'ai pris un petit peu de bouteille, j'avais un peu plus d'argent. On a acheté un appartement à Londres et puis ensuite on a continué à monter comme ça une maison, mais c'était dans le cadre de quelque chose qui est une évolution de vie, quoi, tu vois, c'était moi ce que je dis aux jeunes, c'est l'ordre normal, c'est assurance d'essai, location, constitution d'un patrimoine déjà un petit peu normal, et puis achat de la résidence principale. Oui, ça me paraît vous êtes quand même beaucoup... Mais l'embêtant, si vous achetez une résidence principale en France, c'est pour ça que je ne l'avais pas fait avant 1981, c'est que une fois que vous l'avez acheté, vous êtes coincé par la dette. Oui. Et moi, par exemple, j'aurais été propriétaire en 1981, j'aurais pas pu partir à Londres. Donc, il faut bien savoir que la dette, c'est quelque chose qui vous ancre quelque part, quoi. C'est si vous achetez.
Après, quand tu te, si tu as des enfants, à partir du moment où tu as des enfants, tu es ancré aussi dans le sens où ils vont aller à l'école.
Et oui,
ils
mais
vont
tu
aller,
peux trouver une autre école plus loin, c'est pas
oui,
vrai.
Oui, mais tu sais que tu vas devoir avoir un. Tu peux pas bouger. Enfin, il y a des gens qui le font, mais tu peux pas
tu
bouger
pas
tous les ans.
Les ans. Non, non, tu peux bouger une fois, mais par exemple, là, on était parti pour Londres. Donc. La réponse est oui, vous pouvez emprunter, mais si vous pouvez vous loger sans bon compte en location, compte tenu de le manque de visibilité en France, moi je crois que la location c'est pas plus mal.
Voilà. Alors, André te pose une question. Bonjour et merci pour votre émission. Je vis au Québec, je suis à la retraite et j'aimerais m'occuper d'une partie de mes finances. Est-ce que les conseils de Monsieur Charles sont valables de ce côté-ci de l'Atlantique ? Et quel livre de Charles faudrait-il acheter ?
Ben, vous achetez le dernier. c'est de vous faire avoir. Et ben, oui, tout ce qui est dedans, ça s'applique particulièrement au Québec. Le portefeuille permanent, vous pouvez faire un portefeuille permanent au Canada. Je vais d'ailleurs essayer de regarder.
Qu'est-ce que tu penses va changer là avec les élections, puisqu'on est sur le sujet Canada-Québec ?
Ben, l'idée, c'est quand même, vous aviez le frère jumeau de Macron au Canada. Et vous êtes en train de vous en débarrasser. Donc, je me méfie en disant le suivant est mieux, il va être mieux. Mais si le suivant est pire, ce que je ne crois pas, parce que
Poilievre. D'abord, faudrait se lever de bon matin. Quoi.
Ah oui, mais ça, tu sais, les hommes politiques, ils sont quand même tout à fait remarquables. Donc, je vous ai raconté l'histoire de Denis de Syracuse.
Voilà.
Donc, il me semble que les choses devraient aller mieux au Canada. Donc. Je serais assez. Oui, vous prenez par exemple un quart en or canadien, un quart en valeur canadienne, hein, un quart en cash canadien, un quart en obligation canadienne et un quart en action canadienne de bonne qualité, vous aurez une performance très honorable. Et si vous voulez faire un peu mieux, vous vous abonnez à l'Université de l'Épargne. Le seul biais qu'on a, c'est qu'on n'a strictement aucune information sur le côté fiscal au Canada. Ça, on n'est pas très balèze, là. Mais sinon, les principes restent les mêmes. Il n'y a pas de. Voilà, c'est pas.
Et on se disait, si Trump reprend le Greenland, nous, on est pour reprendre la Gaspésie, France.
Alors, si j'ai un truc à dire, c'est aux Québécois, c'est voter pour votre indépendance, mais votez pas pour votre réunification avec la France. À un moment donné, ça, c'est pas une bonne idée. Attendez un peu, quoi. Ça, je dis ça aux Québécois. Hein, c'est. On serait ravis de vous voir arriver, mais.
Oui, c'est pas le bon moment. Mais
c'est pas le bon moment. C'est comme tous les gars qui sont en Belgique du côté wallon. Il y en a tout un tas qui disent on va se réunir avec la France. Je leur dis bon, vous n'êtes pas dans
avec
une situation.
Avec la Suisse à la rigueur.
Oui, mais la Suisse.
ça leur fait loin.
Non, mais la Suisse, ce qui est embêtant, c'est qu'on aurait la partie française où c'est tous des socialistes. Alors.
Oui, c'est vrai.
On ne va pas se réunir avec la partie allemande et la partie italienne, c'est loin là-bas, c'est loin. Oui. Donc la Suisse, le problème, c'est qu'ils ont 3 ou 4 nations. Hein.
Oui. Alors, on te demande qu'est-ce qui définit le taux de change entre deux monnaies. Exemple, j'achète du yen, ma monnaie de vie est la couronne danoise, je ne sais pas pourquoi, mais le taux de la couronne euro influe-t-il sur le taux couronne yen ? Est-ce que les taux des petites monnaies sont influencés par ceux des monnaies globales ?
Alors, c'est une bonne question. Alors, la première des choses, pour le revenir au Danemark, c'est que le Danemark a une couronne, elle ne fait pas partie de l'euro, mais elle est fixée au Deutsche Mark.
Oui, on en a parlé.
Qui n'existe plus.
Voilà. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark.
Voilà. Donc la couronne danoise ne fait pas partie de l'euro, mais bouge exactement comme l'euro, puisqu'elle est indexée sur le Deutsche Mark, qui était de Deutsche Mark pour 1 euro. Bon, donc, voilà, ça c'est une petite subtilité. Mais ça leur laisse quand même un avantage, c'est qu'ils peuvent sortir de... Ils peuvent dévaluer, par exemple, s'ils le voulaient, ou réévaluer sans avoir à demander la permission, sans que ça ait aucune influence. La réalité, c'est que il y a ce qu'on appelle des zones monétaires. Allez. Par exemple, qu'on le veuille ou non, la couronne suédoise, la couronne danoise, la couronne norvégienne, la livre... qui sont en dehors de l'euro, elles flottent contre l'euro. Tu vois, de temps en temps, elles baissent contre l'euro, de temps en temps, elles montent contre l'euro, mais La Banque centrale, dans ses opérations de change, et elle fait 80% de ce commerce, les pays font 80% de leur commerce avec la zone. Donc, citer le Danemark, l'évolution de l'euro par rapport à la monnaie suédoise, chinoise, c'est pas ton truc qui te... Par exemple, mais si t'es Singapour, l'évolution de la monnaie chinoise, ça t'importe beaucoup. Donc, plus tu fais de commerce dans une zone monétaire, plus ta monnaie est influencée par la monnaie centrale dans cette zone monétaire. Donc, tu te retrouves avec le yuan, le dollar ou l'euro. Et bah, les monnaies européennes flottent tous contre l'euro, et la Banque centrale essaye de minimiser ça, la volatilité vis-à-vis de l'euro, parce que ça trouble les... Si l'euro se pète la gueule vis-à-vis du yuan, ça ne va pas avoir beaucoup d'influence sur les affaires danoises, mais si la couronne suédoise se pète la gueule vis-à-vis de l'euro, ça va avoir d'influence sur les monnaies suédoises, parce que c'est, bon, vis-à-vis du yuan, c'est loin. Le dollar, ça a de l'impact aussi. Donc voilà, vous avez trois zones monétaires, et c'est comme s'il y avait trois soleils avec des petites planètes qui tournent autour, tu vois, chacune autour de leur soleil. Voilà.
D'accord. Gossio te demande « Bonjour, pourriez-vous m'expliquer comment fonctionnent des sociétés comme BlackRock, Vanguard ? Sont-elles pour vous néfastes pour l'économie comme le prétendent certains ? Merci, recevez tous mes vœux pour la nouvelle année.
Ben, » je lui transmets tous mes vœux aussi. Alors là, c'est un truc assez intéressant parce que ça fait partie du complotisme mondial. Vous savez, c'est les... Bon.
Les Illuminati... Les...
qu'est-ce que c'est que BlackRock, qui se trouve être un de mes clients que j'aime bien d'ailleurs. BlackRock, c'est une société un peu comme Amundi. Alors Amundi, c'est la société, je crois, qui a rejoint la Société Générale, le Crédit Lyonnais, je sais pas quoi, tous ensemble là, et c'est l'endroit où les titres sont déposés, tu vois, c'est bon. On appelle ça en termes techniques des custodians, c'est-à-dire bon. Et ce qui a été inventé il y a une cinquantaine d'années par le patron de... C'était qui la deuxième déjà?
C'est BlackRock et Vanguard.
Vanguard, voilà.
C'est d'ailleurs, tous sont des ETF.
Ils ont inventé la gestion indicielle.
Voilà.
C'est-à-dire que vous y connaissez rien en action, vous dites comment je vais faire, et bien ils vous disent c'est pas difficile, il y a l'indice Standard & Poor's ou le CAC 40, on va le suivre exactement, on aura les 40 valeurs du CAC 40 dans les mêmes proportions, sans arrêt, c'est l'ordinateur qui achètera et vous vendra. Et vous allez pouvoir acheter ça, et donc vous n'avez pas à faire le choix de valeurs individuelles. Vous achetez juste l'indice.
Donc tu achètes l'indice, et c'est ce que te donne le
La rentabilité du capital, c'est ce que donne l'ETF. Alors tu peux voir des indices spécialisés, comme par exemple un indice sur les valeurs pétrolières mondiales, ou un indice sur les valeurs de pharmacie mondiale. Tu vois, donc si tu veux jouer une hausse des prix d'énergie, tu achèteras celui-là sans avoir à t'embêter de savoir s'il faut acheter Auxonne au total.
Tu as d'autres ETF au contraire qui ne sont pas avec des indices comme ça, qui vont te dire, voilà, c'est un ETF où dedans on a Total, Exxon...
Voilà, ça, c'est un ETF spécialisé énergie. Voilà. Mais toi, t'as pas à t'embêter de savoir si tu dois acheter Total ou Exxon, parce qu'ils sont là tous, et en fonction de leur capitalisation boursière. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus en auront. Alors, c'est très intelligent.
Il y en a qui aiment pas du tout. Hein,
Je sais, mais c'est très intelligent, mais à condition qu'il y ait des gens qui continuent à faire le travail de savoir quelles sont les bonnes actions et les mauvaises actions, c'est-à-dire des gérants actifs. Donc vous pouvez vous imaginer que vous avez des gérants indiciels qui font aucun travail si ce n'est juste répéter l'indice, c'est-à-dire ce que fait la bourse en temps réel. Et puis là, vous avez des gérants qui disent « Non, moi je veux acheter Total contre Exxon parce que Total est beaucoup moins cher. » Et ce que font ces gars-là, c'est qu'ils disent « ça ne nous intéresse pas ». Mais s'il n'y avait pas ces gars-là qui faisaient le boulot pour nettoyer, pour savoir que Total est meilleur que Exxon ou pas, ben à ce moment-là, ça devient juste un jeu mécanique qui n'a plus rien à voir avec la réalité des affaires sous-jacentes. Donc le grand danger des sociétés indicielles...
C'est que ça crée des bulles.
C'est que ça crée...
Puisque ça n'a pas nettoyé quelque part
le marigot. Il n'y a personne qui va essayer de savoir si celle-ci est meilleure que celle-là. Donc,
Après tout, les sociétés sont vivantes. Donc il y a des évolutions.
Voilà, il y a des évolutions.
Il y a des mauvais choix, il y a des bons choix, il y a des contextes économiques.
Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, comme... Ça se passe aussi dans les marchés obligataires. BlackRock est énorme aussi dans les marchés obligataires, c'est-à-dire que vous voulez avoir la rentabilité du marché obligataire français, mais ils vous offrent un indice qui vous donne exactement ça, vous n'allez pas avoir un gérant qui cherche et fait tout ça, bon, c'est très bien. Mais par exemple, récemment, on a fait, dans le cadre de Gavcal, on avait fait une offre de gestion, puisqu'on a des gérants spécialisés dans les obligations chinoises, une offre de gestion d'un portefeuille chinois pour je ne sais plus quelle institution. Eh bien, on a été battu par BlackRock, qui offrait de gérer à 0,01%.
Oui, comme ça.
C'est-à-dire qu'on leur a dit, écoutez, nous, à ce prix-là, nous... Ah, donc, ça veut dire que tu enlèves, tu remplaces le cerveau humain dans toutes ces structures, dans la gestion de l'épargne, par des ordinateurs qui gèrent en fonction de la performance passée. Tu vois, qui te dit ce qui s'est passé. Donc, plus une affaire est grosse, plus tu en mets.
C'est drôle parce que quand on avait parlé de l'intelligence artificielle, on avait parlé de ça aussi et du fait que l'intelligence artificielle ne peut répliquer quelque part que les informations qu'elle connaît déjà. Donc, arrive un séisme, arrive un black swan, arrive quelque chose, un grain de sable. Ils ne savent pas. L'ordinateur ne peut pas savoir puisqu'on ne l'a pas donné cette information.
Il ne l'avait pas. Donc, pour revenir à la question, est-ce que c'est dangereux ? C'est la limite de l'exercice. C'est que la base du capitalisme, c'est que le capital doit aller là où la rentabilité marginale du capital augmente, c'est-à-dire là où les affaires. Et ces affaires-là, elles allouent le capital en fonction des actions qui montent en bourse, du cours de bourse. Pas du tout la même chose. Donc, ça crée un risque. Plus une affaire est grosse, plus elle a un accès facile au capital. Et plus une affaire est petite, moins elle est cotée. Et plus elle est difficilement trouve du capital. Ce qui est idiot. Donc, ça peut amener à des mauvaises allocations du capital. Par exemple, mais Microsoft qui crache du capital dans tous les sens. Ils peuvent avoir accès à tout le capital qu'ils veulent quasiment gratuitement. Quoi. C'est, alors qu'un concurrent de Microsoft qui essaierait de se lancer, il pourrait pas le trouver parce que personne ne veut le coter. Parce que voilà. Donc c'est le premier danger, c'est une mauvaise allocation du capital. Et le deuxième, c'est que comme là, cette gestion est très bon marché...
comme on a vu, 0,1%.
Une partie plus importante de l'argent est gérée, ce qui détruit tous les gérants qu'on appelle... qui cherchent à faire une sélection de valeurs, tu vois, les gérants actifs, ils disparaissent, ce qui n'est pas bon pour le système.
Non, puisqu'il n'y a plus de gardien de la galaxie.
Et ensuite, les sommes gérées, mais qui ne sont pas gérées, qui sont juste administrées avec des ordinateurs par BlackRock, il faut qu'on ait des... On a très souvent, les sociétés gérantes comme ça, comme BlackRock, votent au conseil d'administration. Et donc, ça veut dire que BlackRock, aujourd'hui, si le détenteur final, c'est-à-dire par exemple moi, si j'ai une action, c'est des actions gérées par BlackRock, je ne dis pas je veux voter personnellement, c'est BlackRock qui vote pour moi. Donc, ça peut amener aussi à BlackRock qui n'a à avoir un rôle indu sur la gestion des entreprises. Alors qu'elle n'en est pas propriétaire, c'est le fonds de pension qui est propriétaire.
Oui, c'est le proxy. C'est le pouvoir qui lui donne le proxy.
Et donc, le grand danger de cette gestion, c'est que ça amène à une mauvaise gestion du capital et ça peut amener à des gens indélicats à influencer sur des décisions de gestion qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, BlackRock, plus ou moins, avait décidé de plus investir dans les énergies fossiles. Oui, mais... Tu vois, donc, si tu donnes ton pognon à gérer à BlackRock et que tu te retrouves que tu n'as pas une valeur pétrolière et que le pétrole passe en travers du toit, tu es un peu fâché, quoi.
Tiens, j'en ai vu qu'un était sorti. C'est pas Vanguard hier qui a dit qu'il sortait des critères ESG ?
BlackRock.
C'est BlackRock.
Parce que justement, il y avait justement des tas d'États comme le Texas et tout qui donnaient de l'argent à gérer à BlackRock, les fonds de pension de l'État du Texas. Et il leur a dit, mais vos trucs ESG, je ne l'ai pas voté au Texas, moi. Hein, parce que moi, je suis pétrolier, alors ça ne m'intéresse pas du tout.
Ça ne m'intéresse pas du tout. Oui, oui, et puis c'est tout le wishful thinking des critères ESG.
Donc, si tu veux, ces trucs-là, ça veut dire que... C'est presque philosophique ce que je vais dire, mais qu'un système fonctionne s'il y a des millions d'opérations ou de décisions décentralisées tout le monde cafouille. Mais plus la décision devient centralisée est peu nombreuse, plus le système devient fragile et inefficient. Et donc, on avait des systèmes efficients qui étaient le merdier dans les marchés financiers, et on est en train de nous appliquer des critères d'efficience dans le marché financier qui vont rendre le marché financier plus efficace dans la gestion au jour le jour.
Mais plus fragile.
Et surtout, qui peut amener des résultats économiques auxquels on n'a pas pensé du tout, qui sont désastreux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, oui, le marché est mieux, oui, tout le monde fait la même performance, c'est vachement bien, mais ça ne veut pas dire que l'économie sera mieux. Parce que peut-être pour avoir une économie qui fait bien, il faut qu'on ait des performances très diverses dans les gérants. Oui.
Et qu'on conserve les gérants analytiques.
Et qu'on... Ben oui, mais si les gérants analytiques, toi, t'es le patron d'un fonds de pension...
Non, mais si tu ne te retrouves pas à être rémunéré, oui, c'est pas une charité non plus.
Mais c'est pas une charité.
Ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller faire des produits dérivés ou j'en sais rien. Mais
oui, ils vont faire des bêtises.
Voilà. Ils vont faire des dérivés secondes. Alors, bonjour Monsieur Gave. Que pensez-vous de la situation obligataire entre la France et le UK? Même si le Brexit a changé les règles commerciales et d'investissement, sur le plan politique et budgétaire, les emprunts publics, qu'est-ce que tu penses de la situation aujourd'hui de la Grande-Bretagne? Et est-ce que alors on peut parler aussi politique, puisque là on a Keir Starmer qui est un peu le cul entre deux chaises, Nigel Farage qui se retrouve dans un parti qui crée un peu une troisième voie, une instabilité politique créée par cette histoire de viol absolument horrible. Qu'ils ont essayé de camoufler.
C'est-à-dire qu'une fois partout, la réalité, c'est que... je vais vous dire, je vais essayer de reprendre ça d'un peu haut. C'est... Vous prenez une photo du G7 il y a un an. Hein. Vous avez toute une série de premiers ministres. Tous ont été virés, sauf...
Pour l'instant,
l'anglais, le français et Madame von der Leyen. Mais sinon, partout, tous les...
Je ne sais pas si elle est remise de sa pneumonie, elle.
Mais elle va peut-être...
Elle va peut-être nous expliquer que les conditions font que...
Qu'elle est obligée de donner sa démission. Oui. Ça serait une bonne chose. Donc, on voit très bien que les hommes...
Ils nous en colleraient un autre qui serait le même. Hein.
Ah oui, oui, mais ça va être de plus en plus difficile, parce qu'avec les rebonds et tout, ça devient difficile. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que partout, c'est le retour des nations. C'est le retour des hommes des armes contre les hommes des bateaux, etc. Donc partout, il faut que le pays soit géré en fonction des intérêts du pays et non pas en fonction de ce que demande M. Attali. Bon. Le problème, c'est que la France et l'Angleterre sont avec les anciens couillons. Macron et Starmer. Moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous voulez être investi quelque part, soyez investi dans des pays qui sont gérés pour les intérêts du pays. Ben, les États-Unis viennent d'aller dans le bon sens, par exemple. Bon. L'Inde, ça fait un petit moment qu'ils sont gérés. La Chine, c'est un moment qu'ils sont gérés pour les intérêts du pays. Le Japon, on peut penser aussi. Donc, ça ne sert à rien de continuer à investir dans des pays globalistes, gérés par des globalistes, puisque de toute façon, ils vont sauter. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, comparer la France et l'Angleterre, c'est de comparer deux gars qui sont en train de se noyer. Lequel se noiera le plus vite, c'est intéressant, mais c'est pas la question. Si vous voulez, pour moi, si je devais investir aujourd'hui dans des obligations en Europe, j'achèterais un mix d'obligations suisses et d'obligations suédoises. Voilà, parce que je me dis, bon, les obligations, la monnaie suédoise, elle est donnée dans la rue. Le franc suisse, c'est un outil de collection, quoi. Vous en voyez tellement peu que vous les mettez dans un cadre chez vous, vous savez. Donc, je me dis, plus le pays est petit, plus il est géré pour les intérêts du pays, moins il est plus il faut y être dedans.
Ça, c'est une des choses dont je me félicite, petit caveat, mais que mes filles, elles passent pour Suisse. J'en suis quand même, j'ai épousé un Suisse, j'en suis quand même très satisfaite pour elles.
Pour elles.
Pour plus tard.
Et je me souviens quand il y avait eu des... Je sais plus, c'était après l'aéroport de Beyrouth, etc. Il n'y avait plus aucun avion qui volait parce que tout le monde avait peur. Plus personne prenait l'avion parce qu'on avait peur que l'avion saute ou je sais plus quoi. Et les seuls avions qui volaient sans aucun problème, c'était les avions suisses, parce que tout le monde savait que les terroristes, pour aller au prochain truc de terroriste, prendraient un avion suisse, parce que... les Suisses, on fait pas d'attentat contre les Suisses, faut pas déconner, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
C'était très rigolo. Donc, voilà, si vous voulez, la Suisse, la Suède, la Norvège...
Sinon, où est-ce que les dictateurs mettraient leur pognon, quand même?
Ben voilà, faut pas rigoler. Qu'est-ce que vous voulez qu'Arafat fasse de son fric s'il n'avait pas été à l'UBS, quoi?
Mais voilà, donc...
Il faut être sérieux dans la vie,
quand même. Un peu sérieux, quand même. Alors, puisqu'on parle de choses sérieuses, donc, meilleurs vœux, Pierre te dit, ma question est, pourquoi accordons-nous toujours de l'importance aux agences de notation américaines type Moody, Fitch et le S&P?
Fitch est française.
Alors qu'elles ont prouvé leur incompétence et leur corruption depuis 2008 avec les notations des subprimes, et vu qu'on continue à être suspendu à leurs décisions, est-ce que Trump ne pourrait pas s'en servir pour mettre un coup de pression à Macron?
Alors, pourquoi on sert des agences de notation? Ça fait partie de cet effort de tuer les individus et de faire naître les groupes de pression.
Ouais.
Je m'explique, c'est que moi, quand j'étais jeune, quand tu voulais acheter une obligation, d'EDF ou n'importe quoi, tu avais les analystes à la Banque de Suez qui faisaient travail sur le bilan d'EDF pour savoir s'il fallait les acheter ou pas. Et donc, c'était chaque entreprise décidait d'acheter une obligation de merde ou pas. C'était elle qui décidait. Et puis, les gens qui nous gouvernent disent, mais non, c'est pas du tout comme ça va pas passer. On va créer des groupes, on va donner un pouvoir régalien à deux ou trois grands groupes qui nous diront lesquels on peut acheter, lesquels on peut pas acheter. On va mettre des catégories, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a délégué le pouvoir régalien qui va déterminer les réserves obligatoires que chaque entreprise financière va être obligée de mettre à des gens du privé. Et c'est reconnu par les États. C'est-à-dire que ces États incompétents ont créé des monopoles qui ensuite vont juger le travail des États. Mais moi, je les mettrais tous en prison. C'est parce qu'il fallait faire des règlements mondiaux pour les banques de façon à ce qu'on puisse arriver à une monnaie mondiale et un gouvernement mondial. Tu vois, tout ça, c'est le même truc. C'est-à-dire que tu crées un club de copains et tu leur dis, bon, moi, je vais m'occuper de la régulation. Donc, celui-là, il va gagner plein d'argent, mais simplement parce qu'on aura besoin de son coup de tampon, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité du gars. Ça a tout à voir avec le fait qui fait partie de ce complot mondialiste.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'on ait conservé ce complot mondialiste, quand même, des agences de notation, après 2008, alors qu'ils ont prouvé par le menu leur totale incompétence.
Mais attends, la prochaine crise, ils ne la verront pas arriver non plus. Mais ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que ce n'est pas pour savoir s'ils font des bonnes recommandations. C'est qu'ils font partie du truc qui permet au gouvernement central de contrôler les banques. C'est-à-dire que...
Alors, puisque tout à l'heure on parlait de complot, le complot il n'est pas chez Vanguard ou BlackRock, il est là. Hein,
absolument.
Donc vous ne trompez pas de complot pour le coup.
Ça, c'est bien plus grave.
C'est bien plus grave.
Et c'est un. Je me souviens, autrefois, il y avait les fermiers généraux en France, vous savez, c'est-à-dire que des gens qui avaient de l'argent et le gouvernement leur disait bon, ben, moi j'ai la flemme de lever les impôts. Vous me payez les impôts de la province du Languedoc,
ouais.
Là, et puis vous,
et
vous
puis
démerdez.
Vous irez pour aller les collecter.
Vous démerdez pour aller les collecter. Ben, c'était pas beau à voir. Mais c'est exactement les fermiers généraux. C'est une preuve à la fois de l'incapacité de l'État et du lien infâme qui existe entre certaines parties du capitalisme et l'État.
Oui, et c'est pas beau à voir.
Non.
Alors, on te demande, est-il toujours judicieux de s'exposer ou d'acheter du yen? Si oui, où s'en procurer à moindre fait, sur quel support?
Oh, bon, ça, bien sûr qu'il faut en avoir. Il est toujours sous-évalué de 40-50%. Il monte d'ailleurs gentiment petit à petit vis-à-vis de l'euro. Hein, mais la réponse, c'est vous allez sur un truc Revolut.
Il y a Revolut ou il y a Wise. Et vous regardez, ça permet d'acheter du yen. Donc Revolut vous permet d'acheter en monnaie des monnaies étrangères. Et tant que, pour ce qui est de la fiscalité, tant que vous sortez pas de la position, vous êtes tranquille, il n'y a pas de
position sur les plus-values. Je suis pas certain qu'on soit un peu, si vous gagnez de l'argent sur le yen, par exemple, je suis pas certain qu'il y ait un gain capital parce que vous avez acheté.
Non, c'est pas imposable sur les plus-values. Il faut vraiment trader sur le forex pour tomber dans le, parce qu'on s'est vraiment posé la question sur le forum et on a débattu. Bon, pour ceux que ces questions-là intéressent, encore une fois, rejoignez-nous à l'Université de l'Épargne. On a des débats passionnants. Et on a parlé un peu fiscalité sur ça, et voilà où on en était rendu. Alors, Guillaume, et je pense que ça va être dans nos dernières questions, parce que le chien commence à s'impatienter, te demande, en pratique, on saute la France demain, il n'y a plus de sous, on n'a pas trouvé les 50 milliards pour faire le roulement de la dette, le FMI arrive, qu'est-ce qui se passe? Il gèle les banques, il gèle les avoirs,
le FMI ne peut pas arriver, on est beaucoup trop gros. Tu veux, le FMI, il peut sauver quelqu'un à 60-80 milliards d'euros, mais à 3 000 milliards d'euros, ils n'ont pas les fonds propres. On est beaucoup trop gros.
Alors, faisons autre chose. Hop, on n'a pas les 50 milliards. Les marchés nous disent, ah ben non, pas de bras, pas de chocolat.
Ils vont venir les chercher dans vos comptes. La première des choses qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont le droit, d'après la loi Sapin 2, les 2 000 milliards qui sont dans les assurances-vie, tu sais, les 2 000 milliards déposés. Non, j'espère que c'est, vous les avez tous vendus, mais enfin, vous en avez peut-être encore. Le gouvernement français a le droit de suspendre le remboursement. Alors, mettons que sur ces 2 000 milliards, qu'ils aient une duration moyenne, elle est de 7 ans, ça ferait 2 100 milliards divisé par 7, ça fait quoi? 310 milliards par an? Oui, c'est ça, 310 milliards qui viendraient à échéance, etc. Donc le gouvernement peut tout simplement décider que, il va pas rembourser ces 310 milliards qui arrivent à échéance cette année, qu'il va vous donner un bout de papier en disant on vous remboursera quand on aura les sous. Donc ça veut dire que la première des choses qu'il va faire.
Vous pouvez directement le mettre en papier tu mouches dans votre cuisine, hein, parce que ça aura à peu près la même utilité.
Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à peu près 300 milliards qui arrivent comme ça chaque année de remboursement qui devraient être effectués. Et ceux qui sont dans les assurances vie, le gouvernement peut décider qu'il y a un état de crise financière et que donc il remboursera pas cela. Il vous donnera un papier qui sera remboursable dès que ça sera possible.
Est-ce que tu crois que, comme aux États-Unis, on peut avoir une forme de government shutdown, c'est-à-dire un gel du paiement des... Pas en France, il ne se permettrait pas.
Pas en France, il ne permettrait pas. Et en plus, s'ils font ça, si tu veux, s'ils bloquent les 2 000 milliards, il y en a, mettons, 300 qui arrivent et puis qu'ils ne les remboursent pas, à ce moment-là, ils n'ont pas trop de mal à financer leur déficit budgétaire parce qu'il est à peu près à 300 milliards. Donc le simple fait de ne pas... C'est déjà, ça ira quoi. Puis la Banque de France à ce moment-là achètera le problème, c'est qu'il faudra passer. Ce qui est embêtant, c'est que la BCE à ce moment-là devrait acheter les obligations françaises, mais c'est pas la BCE qui les achète. C'est la Banque de France qui les achète pour le compte de la BCE. Et donc, si la BCE refuse d'acheter les effets français. Ils iront chercher le pognon là où il est, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans les assurances vie, peut-être. Il y a combien dans le livret A? Je sais plus.
Aucune idée. Au niveau français?
Au niveau français, je crois que c'est pas loin. Enfin, je dis peut-être une connerie, mais pas loin de 1 000 milliards aussi. Donc, il y a plein d'argent qui dort comme ça, mais il est déjà investi cet argent quelque part. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage des 300 milliards qui arrivent, c'est que normalement, il aurait. Il faut les racheter en quelque sorte. Il y a un acte de rachat. Là, tu dis simplement, j'ai pas les. Donc ton déficit budgétaire ne change pas, mais ton appel sur les marchés financiers change à hauteur du truc que tu rembourses pas, quoi.
Eh ben, écoute.
Mais par contre, ça veut dire que probablement il y aura une prime qui se mettra sur le dollar. C'est-à-dire que les gens qui veulent plus être payés en francs ou en euros, si tu arrives avec des dollars cash ou des francs suisses cash, tu pourras acheter à 20 ou 30% de décote.
Alors, tu as Marco, et ce sera la dernière question, je pense, qui te demande si tu es toujours heureux de la Suisse. Et, on avait fait une émission sur la Suisse il y a 2 ans maintenant.
Oui, la Suisse, ils me font rigoler. Vous savez, la meilleure nouvelle en Suisse qui m'a fait encore rigoler cette semaine, c'est que la Banque nationale suisse a gagné l'an dernier 80 milliards de francs suisses, c'est-à-dire un peu plus de 80 milliards d'euros, et qu'elle les a redistribués aux cantons, aux municipalités, etc. Donc, nous, on se décarcasse pour trouver 150 milliards, ça fait un drame. Les Suisses, qui sont beaucoup plus petits, hein, ils ont 80 milliards de profits faits par la Banque centrale et qui redistribuent aux cantons, et ce qui est équivalent à une baisse massive des impôts. Et tu peux pas t'empêcher de dire, mais on va leur filer tous les énarques et ils devraient nous filer 2 ou 3 gars de la Banque nationale.
On a bien essayé avec Bruno Le Maire de leur enfiler un, mais ils l'ont même pas gardé.
Ils l'ont même pas gardé. c'est les étudiants qui ont gueulé en disant, mais on n'en veut pas.
On n'en veut pas, c'est une école sérieuse ici, monsieur. On veut des gens qui nous forment.
On veut pas des gens qui nous déforment.
Pas des mecs qui écrivent des bouquins bizarres.
donc la Suisse, oui, elle reste tellement... En dehors de ce monde complètement farfelu, si vous voulez, les Suisses, c'est vraiment un peuple. Ils ont, Ils me disent toujours, vous savez, le problème que vous avez, vous les Français, c'est que vous êtes trop intelligents. Mais en même temps, ils se foutent de ma gueule quand ils me disent ça.
Oui,
mais...
oui, c'est ce que disaient les ministres de Macron, qu'on n'avait pas suffisamment compris leur intelligence.
Voilà, oui, oui. Voilà. Donc les Suisses, ils ont cette admirable modestie.
Ouais.
De dire, nous, on n'est pas assez intelligents, on ne peut pas faire des choses comme ça, on ne comprend pas. Quoi. Ouais. Moi, c'est pour ça qu'elle me fait rigoler. C'est que...
Mais moi, je fais quelquefois ça dans les boutiques aussi, quand on me propose quelque chose, je dis, ah non, c'est beaucoup trop élégant pour moi. Mais en général, c'est que je trouve ça dégueulasse.
Oui, mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était une remarque de Jean-Marie Le Pen qui nous a quittés. Dans un débat, il y avait quelqu'un qui le traitait de fasciste. Et il a dit, mais je ne peux pas être fasciste, je suis pas assez socialiste pour être fasciste. Et ça, c'est une réponse de Suisse, quoi. Parce que le fascisme, c'est tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. C'est la définition officielle du fascisme de Mussolini. Donc j'imagine qu'il savait de quoi il parlait. Et ceux qui sont tout pour l'État, rien en dehors de l'État, c'est le LFI. Et moi, je suis complètement à l'autre bout. Je dis, si ça ne veut faire rien, j'aimerais bien qu'on me lâche la grappe. Et donc, eux, ils sont fascistes, moi, je ne le suis pas, et ils me traitent de fasciste, et ils presque...
Ça a été une des grandes mythifications sur lesquelles est revenu Elon Musk en parlant avec une des responsables de l'AFD. Une des grandes mythifications du XXe siècle a été d'appeler justement les héritiers du nazisme et de Mussolini extrême droite. Or, ils sont nés du national-socialisme.
Et Mussolini était le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Et leurs moyens de coercition dans l'État et ainsi de suite n'avaient rien à voir avec une extrême droite. Donc il y a eu cette espèce de déviance. Et Daniel Annan, qui est un MP britannique et qui était avant à l'Europe, avait eu toute une série d'échanges avec un autre... représentant de parti, je crois que c'était dans The Guardian ou dans un autre journal, qui était formidable parce qu'ils avaient vraiment repris pratiquement l'eschatologie de
C'est-à-dire la gauche est naturellement totalitaire.
Mais bien sûr.
Puisqu'elle demande de plus en plus d'intervention de l'État.
Et je ne sais pas pourquoi on se retrouve... Et la conclusion du truc, c'était de dire, écoutez, voilà, je vous ai démontré par A plus B qu'en réalité, les nationaux-socialistes...
Étaient
socialistes et étaient des gens de gauche. Et au pire, si vous considérez que j'ai tort, on va peut-être se mettre d'accord pour un moratoire et arrêter de nous traiter, en tout cas conservateurs, puisque lui, il est conservateur, de nazis. Parce que vous vous rendez compte quand même du grand écart que vous faites et du fait que c'est infiniment désagréable et que
mais
ça n'a aucun lieu d'être.
On est arrivé à dire de quelqu'un qu'il était nazi ou fasciste, ou je sais pas, s'il aimait son pays. Donc la gauche est arrivée à dire que quelqu'un qui aimait son pays et qui avait envie de bouger librement était d'extrême droite. Non mais attendez une seconde, c'est les droits fondamentaux de l'humanité, c'est de se balancer, c'est d'aimer là où son père est enterré et de pouvoir se balader librement. C'est pas être extrême droite, c'est juste être normal.
Mais et c'est ce qu'on peut trouver d'agréable dans le rebalancement, certes agressif, que peut avoir Elon Musk sur les réseaux sociaux, c'est de renvoyer toutes ces idées nauséabondes qui ont été toutes ces mythifications au travers du temps.
C'est ce qu'avait dit Reagan, il avait dit quelque chose de très profond, il avait dit le prochain fascisme sera organisé par le parti, par les libéraux, au nom de l'égalité.
Oui, bah, liberals.
Liberals, c'est-à-dire les libéraux de l'équipe de gauche,
voilà,
le Parti démocrate.
Les partis démocrates. Et c'est ce qu'ils ont fait en se servant du wokisme, en servant du « vous ne pouvez pas dire ça, ça m'offusque », et ce faisant, contrecarrant toute liberté d'expression.
Ben oui, parce que moi, si on ne peut pas s'engueuler avec les gens, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de raison de discuter. Quoi, parce que
non, mais voilà, et
c'est l'engueulade qui me rentre.
Et inversement, tu vas voir donc toute la gauche qui dit « Ah, mais je ne peux pas parler avec un tel parce que c'est un nazi, parce que c'est un fasciste. » Vous dites « Mais enfin, c'est quand même incroyable. » Donc de refuser le débat sur le préambule de « Reducto ad Hitlerum » dès le début.
Mais en même temps, ils sont très contents d'être devant les écrans. Donc ils arrivent au galop, mais ils te disent
oui, «
Je ne veux pas vous parler. »
Oui, mais pour parler entre eux.
Pour parler entre eux, mais...
De sujets convenus.
Et bien, en plus, si t'es là, toi, ils te disent « Nous, on ne vous parle pas, on parle entre nous. »
Voilà.
Vous êtes... Donc, cette idée...
Vous sentez des pieds. Ben voilà. Ce qui prouve que ce n'est pas un respect ni des idées, ni des personnes.
Donc, souvenez-vous toujours que... Au 19e, il y avait trois personnes qui se disputaient le champ politique. Vous aviez le conservateur, qui disait « C'était mieux avant. » Vous aviez le socialiste qui disait « ça sera mieux après si vous me filez le, filez le pouvoir ». Mais enfin, ce n'était pas vraiment vrai, parce qu'en général, on terminait dans des camps de concentration. Donc, Et puis au milieu, vous avez le libéral qui disait « vous savez, ça serait mieux si on s'occupait ni d'avant ni d'après, si on s'occupait d'aujourd'hui pour que ça soit un peu mieux ».
Et que vous nous foutiez bien la paix.
Et pour ça, peut-être nous foutre la paix, ce n'est pas une mauvaise chose. Et donc, moi je suis dans la position libérale depuis toujours. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les deux, le vrai conservateur, le connard là à droite, et l'autre à gauche, là, l'autre autre connard, ils sont mis d'accord pour dire que le vrai danger, c'était celui du milieu, qui était juste le gars qui était dire...
Qui regardait en disant « foutez-moi bien la paix ».«
Foutez-moi bien la paix, je vais essayer d'organiser ma vie du mieux que je peux ». Et les deux sont d'accord parce que c'est le vrai danger. C'est-à-dire que dire aux gens « vous êtes libre si vous occupez de vous-même ».
Voilà, bon bah écoutez, j'espère qu'on aura fait un joli petit tour d'horizon. En tout cas, j'ai essayé de poser vos
questions.
Non, mais ça, c'est pour les autres. Voilà, donc en tous les cas, vous retrouverez aussi Léonard qui va vous faire une petite émission sur l'actualité. Donc l'actualité, vous pourrez la suivre avec Charles et Léo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus
de nouvelles aventures.
Encore plus de nouvelles aventures. Voilà, merci de nous avoir suivis et on vous dit à très vite. Merci.